franceinter.fr.
Bonjour à tous. Plus de 7000 soldats français sont déployés dans le monde. L'armée appelle ça les théâtres d'opérations extérieures. Le Mali et toute la bande sahélienne, la Centrafrique et évidemment le front irako-syrien et la guerre contre l'État islamique. Avant cela, il y a eu la guerre en Afghanistan, plus de 10 ans dans les montagnes de ce pays qui d'ailleurs retombe peu à peu entre les mains des talibans. De ces terrains, des centaines d'hommes sont revenus avec le corps abîmé, des blessures et parfois des amputations, et d'autres qui, eux, ne portent aucune cicatrice, les blessés psychiques. Ils seraient 550, rien que dans l'armée de terre. C'est en tout cas le nombre de militaires soignés pour ce mal si compliqué à admettre. Ces soldats déclenchent un syndrome post-traumatique, en résumé une très grosse dépression, dès leur retour pour certains, des années après pour d'autres. Dans un univers où se livrer est une quasi-faute professionnelle, l'institution militaire a cependant créé il y a 2 ans une structure pour redonner confiance à ses blessés. C'est le CREBAT, le centre de ressources des blessés de l'armée de terre. Ces militaires sont conviés à un stage en montagne, 9 jours pour se reconstruire, par le sport, par l'écoute, par l'esprit de groupe, pour réapprendre à vivre après ce syndrome post-traumatique. La blessure invisible, ce reportage est signé Isabelle Souquet et Jean-Marie Porcher.
Interception, le magazine de la rédaction.
Si c'est par rapport au fait d'armes du régiment, pas par rapport à lui, je pense. En fait, on ne retrouve jamais, évidemment. En fait, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté.
C'est difficile d'en parler ?
Moi, je me suis caché pendant longtemps, hein, donc... Si je peux continuer à me cacher, je vais me cacher.
Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à venir maintenant ?
C'est le docteur qui me suit à l'hôpital. Et puis, parce que j'avais atteint un degré de violence où il fallait que je... Pour la famille, c'était plus possible.
De violence envers la famille ou de violence envers vous ?
Non, envers la famille. De toute façon, c'est toujours les proches hein, qui ramassent le plus. Une fois que vous blessez les gens, vous blessez les gens. C'est ce que je veux dire, c'est...
Et qu'est-ce que vous attendez de ce stage ?
Pour m'évaluer moi par rapport aux autres, pour voir un peu les autres, pour je me considère pas comme un blessé. Je suis différent.
Comment ça vous considérez pas comme
un blessé ? Moi je me considère pas comme un blessé. Moi, je suis... En fait, j'ai vécu des choses où j'ai eu des expériences qui m'ont amené à changer. Et j'ai changé, je veux dire. D'ailleurs, c'est ce que je dis moi au psy. Quand je suis devenu père, j'ai changé. Après, c'est les choses de la vie qui font qu'on change. Alors maintenant, c'est peut-être. Je me cache peut-être derrière, hein, mais maintenant je me dis. En fait, mes limites se sont déplacées en fait. Ouais, je n'ai pas forcément les mêmes limites que tout le monde, mais tout le monde a des limites différentes. Bah, en fait, quand vous êtes dans votre bulle, vous avez besoin de rien. Voilà, donc moi j'ai besoin de rien. Et après, il y a plein de gens hein, qui ont besoin de rien.
Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette phase ?
Depuis que je suis arrêté en fait. Hein.
Et ça fait combien de temps ?
Bah, je crois que ça fait 2 ans ou 2 ans et demi. Quand on me demande si ça va, c'est que je dis ça va. Bon. Donc, ça va. Regardez, je suis...
Enfin, c'est un ça va qui est vite dit.
Non, ça va, parce que moi, j'ai un camarade qui est décédé, j'en ai d'autres qui sont venus blessés, donc... eux, ils ont été blessés, ouais.
Ah, vous vous dites comparativement ça va ?
Bah oui. J'ai mes bras, j'ai mes jambes, j'inspire. Hein.
Ça se présente bien ce stage ?
Ouais, une bonne équipe. Donc j'espère. Ouais, on tire des bénéfices.
Qu'est-ce que vous en attendez, vous ?
Des réponses. J'ai beaucoup de questions sur ma place dans l'institution, ma place dans la France, savoir où aller, parce que là, je suis arrivé à un point où il y a plus de questions que de réponses et c'est fatigant.
Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à ce point-là ?
si je le savais. Si je le savais, je pourrais dire à mes camarades de ne pas faire la même connerie.
Il y a eu des choses précises qui se sont passées. Il y a eu des missions particulièrement difficiles, peut-être.
En ce qui me concerne, j'ai fait deux fois l'Afghanistan. Mon premier mandat, on a perdu quatre bonhommes. On a ramené quatre copains dans des caisses. L'un des quatre, c'était mon chef de groupe, donc je l'ai un peu dur. Je me sens responsable de ce qui lui est arrivé.
Responsable ?
J'étais son chef, je devais le protéger. J'ai pas su le protéger. Ouais, on en arrive à se faire mal comme ça. Je pense à sa famille, là. Qu'on parle de lui, hein. Je pense à lui. 6 enfants qu'il avait. Une famille détruite.
Et pourquoi est-ce que vous doutez aujourd'hui de vous-même ? À cause de ça ?
Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est un empilement. Moi, c'est surtout de la fatigue et un empilement d'événements qui m'ont fait craquer. Il n'y a pas un événement particulièrement traumatique qui m'a mis dans cet état-là. C'est une accumulation. Ouais. Et moi, j'ai eu de la chance par rapport à certains de mes camarades. C'est que j'ai une épouse qui était attentive et qui s'est rendue compte que ça allait pas et qui a tiré la sonnette d'alarme en temps et en heure avant qu'il y ait un drame.
C'est-à-dire avant qu'il y ait un drame ?
Je ne vais pas répondre à celle-là.
Nous sommes au cœur du massif du Mercantour, dans un lieu qui sert surtout aujourd'hui de camp de base pour l'entraînement en montagne des forces spéciales. Depuis 2 jours, les blessés, les stagiaires, ont retrouvé une vie de groupe et quelques habitudes militaires. Du sport, beaucoup de sport, marche en montagne, escalade ou canyoning, il s'agit de se dérouiller et de retrouver le plaisir de l'activité physique. Retrouver aussi les camarades pour ceux qui se sont isolés depuis leur trauma. Au programme encore, des ateliers, travailler sur soi, sur ses compétences, comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et ils sont nombreux à ne pas accepter d'être vraiment physiquement blessés. Alors ce matin, Marion Trousselard, médecin militaire, va leur expliquer où se situent physiquement leurs blessures. Elle est venue avec son tableau noir et ses craies de couleur.
Donc je vais vous faire des dessins du cerveau, je ne dessine pas particulièrement bien. Je vais vous mettre des zones. Par rapport à vos symptômes, elles ont des rôles clés. Et du coup, l'objectif, c'est que vous puissiez un petit peu apprivoiser ce fonctionnement du cerveau. Alors la vue du cerveau que je vais vous faire, c'est une coupe comme ça. Donc l'avant... l'arrière. Dans cette zone-là du cerveau, en fait, il y a tous les noyaux de la survie. Et c'est hyper solide. Là, vous avez une partie du cerveau qui est... J'écris comme un pied, en plus. Là, vous avez le cerveau qu'on appelle limbique ou émotionnel. Et puis là, vous avez le cerveau intelligent. Alors, on va le dire... C'est un peu plus qu'intelligent parce qu'il est rationnel et empathique. Ce système-là, il a ses limites. Et quand le danger est trop violent... Le cortex préfrontal, qui est très fragile, il est séché. Et vous avez la peur qui revient. Alors, avec toutes ces zones, en fait, vous avez aussi les symptômes. C'est l'hypervigilance.
Je vais le mettre en noir.
L'hypervigilance. L'anxiété, je suis à l'alerte de tout. Le cortex préfrontal, comme il est diminué, il contribue avec l'hippocampe à faire l'évitement. Donc vous allez éviter les situations qui vous rappellent. Il va vous rendre irritable, voire violent. Moins de performance, de l'hypervigilance, on peut avoir tendance à prendre un peu d'alcool. Baisse d'estime de soi. Dévalorisation. Vous voyez comment se font les boucles. Donc l'idée, c'est vraiment que vous ayez conscience qu'il y a, quand vous avez un problème, vous vous pétez les croisés, vous comprenez bien qu'il y a le croisé, le muscle qui marche mal, du coup vous faites de l'arthrose si vous ne le soignez pas, etc. Donc, c'est la même chose dans le cerveau, sauf que c'est plus facile d'ouvrir un genou que d'ouvrir un cerveau. Et on est vraiment dans une vraie blessure. Donc, de mon point de vue, c'est important que vous ayez ces éléments pour vous positionner. Vous ne pouvez pas être bon, vous avez séché votre cortex.
Ouais. C'est juste pour demander, il est possible que, pour certaines personnes, en fait, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus, surtout. Parce que moi, je sais qu'à mon retour de Mali, étant donné que j'ai vu la mort en face de moi, je me suis dit, bon, mais c'est que du rab, et en fait, je pensais plus comme quelqu'un de raisonnable, c'est-à-dire à penser au lendemain. En fait, vivez le jour le jour.
Mais c'est exactement ça, vous avez mis le doigt sur les choses. C'est-à-dire que le cerveau est fait de mettre dans cet état de survie, c'est son objectif, c'est son but.
Je voulais savoir s'il y avait besoin d'identifier vraiment la source du problème. Parce que alors, en ce qui me concerne, j'ai vécu 25 prises à partie directes et 27 indirectes. Et du coup, je suis incapable de dire quelle est vraiment la source entre les morts, les tirs, les...
Une approche thérapeutique qui est parmi les plus efficaces, c'est de refaire vivre l'événement. Et le fait de remettre en mots, en sécurité, ce que vous avez vécu, ça devient un souvenir et non plus une réalité. C'est-à-dire que ça redevient un élément de votre vie et non pas un traumatisme.
Ce que je voulais savoir, c'était en Centrafrique, là, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Le problème, c'est que j'ai gardé beaucoup de choses en moi. J'en ai pas voulu spécialement en parler, parce que j'y arrivais pas. Mais est-ce qu'avec le temps, ça va passer? Ou est-ce qu'avec le temps, ça peut empirer? Parce que je sais que moi, pour certaines choses, comme l'irritabilité, maintenant, je sais que ça passe plus du tout, en fait, quoi.
Tant que pour vous, ce sera pas paisible, devenu paisible et transformé en souvenir, ça va vous maintenir une irritabilité.
On est dans le prolongement de Monico. Est-ce que tu pourrais évoquer ce que pourrait être la guérison du syndrome post-traumatique?
Si on tape sur la tête de quelqu'un, quand je dis taper, c'est avec des traumas répétés ou en usant le cerveau, tout le monde à un moment fait un PTSD. Tout le monde est à risque. La question de la guérison, elle est complexe. Il y a des gens qui ne rechutent jamais. Il y a des gens qui rechutent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se dire, ok, mon cerveau a fait ça, maintenant je vais bien, j'ai développé des ressources, je sais comment aller les rechercher.
La guérison, en fait, c'est dès le moment où l'expérience bascule dans le souvenir et qu'elle est plus dans mon présent.
C'est quand même habituel aux soldats, à l'engagement, ainsi de suite. On est tous des militaires, on sait que notre métier est un métier de risque et qu'on peut y laisser sa vie, ainsi de suite.
On raccord, parce qu'il faut qu'on continue notre programme. Ce qui est bien, c'est que ça ouvre à plein de questions.
Donc tout ça, c'est un ensemble. Et profitons de ces 9 jours, justement, où tout est sur la table, où les gens sont à votre écoute, pour justement essayer d'apporter des réponses à ces multiples entrées. Voilà. Voilà. Et sur ce, on ouvre les entrées chez Isabeau, chez Christine. Merci beaucoup.
Il va falloir se mettre en maillot de bain, mettre toutes vos affaires de rechange dans les 3 véhicules. Vous allez suivre Guillaume qui va vous amener à l'arrivée du canyon. C'est bon ?
Très bien.
Allez, action alors.
Good job. Ah oui.
Après, il va y avoir des toboggans. Les toboggans, si on s'assoit sur les fesses, vous avez vu, sur le baudrier, on a une couche derrière. Les jambes serrées, les bras le long du corps. Et on glisse. Et quand on touche l'eau, hop, on amortit. Toujours pareil. Ok ? Ça glisse. Hein ? Donc, quand on ne le sent pas et quand on approche au bord d'une cascade ou d'un saut, on y va tranquillement. Hein ? Il va y avoir des bouts de désescalade aussi. On s'assoit sur les fesses. On va se suivre, les uns derrière les autres. Donc, celui qui est devant prend soin de celui qui est derrière dans les moments de désescalade. Et donc, passe les infos aussi. Pour que ça remonte toute la troupe. Pas déformé. Voilà. Ensuite, il va y avoir du rappel. Vous en avez fait un peu à l'escalade.
Ah, t'es coincé. Allez, vas-y. Tiens bien la corde dans le sou. Tu laisses aller. Si t'as envie de partir de plus haut, tu lâches plus haut.
Bonne découverte de l'activité. Très ludique, très ludique. Après, vous avez vu que malgré l'aspect très ludique du canyon, on peut très vite se faire mal en canyon. Est-ce qu'on a été assez satisfaisant ou...
Super.
Omniprésent et rassurant.
Non, après vous, vous avez été parfait, hein. C'est impeccable.
Merci.
Au fil des jours, le travail se fait, l'acceptation de la maladie aussi. Le groupe se soude petit à petit, retrouve la fraternité d'armes qui a manqué à beaucoup. Et certains se confient plus volontiers, comme Monico, soldat blessé en Centrafrique.
Bon, la mission la plus difficile, ça a été la Centrafrique, dont ma deuxième mission.
Ça a été une mission particulièrement difficile ?
Difficile, oui, je pense, pour toute ma section. Après, pour moi, ça a été plus particulièrement difficile parce que... Le premier objectif, c'était d'y rester déjà, faire ma mission le mieux possible et jusqu'à la fin. Ensuite, les sentiments ont pris le devant, dû à la pauvreté là-bas, des enfants, des femmes. Surtout les enfants, ben, ce qui s'est passé là-bas, je ne l'oublierai jamais, c'est une certitude.
Est-ce que c'est là-bas qu'il s'est passé des choses si difficiles et si traumatisantes pour vous ?
Oui, parce que... Quand on arrivait là-bas, on ne s'attendait pas à ce genre d'horreur qu'on pouvait tomber là-bas. J'essayais de ne pas avoir de sentiments, justement. Il fallait surtout penser à nous, penser à la mission, déjà dans un premier temps, essayer de la résoudre. Après, pour ce qui est d'horreur, bah, c'est des choses qu'on voit, qu'on a vécues, qui sont difficiles aussi à vivre par la suite. Je sais qu'aujourd'hui, là où j'en suis, ben, c'est à cause de ça aussi également. Je ne m'attendais pas à avoir autant de choses. Mon comportement a changé, ma vision des choses a changé et on ne devient plus la même personne.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit un jour « stop, je peux plus » ou que votre corps a dit « stop, je peux plus »
Je suis rentré en France, ça a été l'accumulation parce que pour ma part, avec un de mes collègues, on a sauvé un petit gamin. Ce petit gamin-là devait avoir entre 6 et 8 ans. Il nous fournissait pas mal d'informations. C'est vrai que là-bas, c'était souvent les gamins qui nous passaient beaucoup d'informations. Parce que c'était les plus sensibles et c'était aussi les personnes, ben, on avait plus de facilité à parler. Et ben, y avait une certaine confiance qui se faisait entre nous, parce qu'ils nous passaient des informations. Nous, on faisait aussi, ils n'avaient pas mangé, donc moi, pour ma part, je lui passais ma ration, je lui passais aussi des habits, parce que ça me tenait aussi à cœur de voir un sourire dans leur personnalité, sur leur visage. C'est surtout ça.
Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce gamin ?
Ce gamin-là... Le lendemain, quand on est revenu sur le lieu, les Séléka avaient vu qu'ils nous avaient passé des informations et ils l'avaient pendu sur un lampadaire. Donc, c'est vrai qu'on se sent complice ou je sais pas. Mais je lui aurais jamais demandé, je pense, ces informations-là. Il serait peut-être toujours là. C'est vrai que quand c'est la mort d'enfants, les mutilations d'enfants, c'est difficile à vivre parce que ça reste un gamin et... C'est différent quand c'est une personne adulte et qui est conscient de ce qu'il fait. Donc c'est ça aussi qui change la personne. Après, il y a eu pas mal de choses quand on est parti en cambrousse, en dehors de Bangui. Les mutilations étaient de plus en plus importantes. C'était souvent ben, les femmes qui en subissaient les conséquences. Je suis tombé sur pas mal de choses qui aujourd'hui me hantent encore et qui fait que j'arrive plus à vivre correctement, à retrouver le plaisir ou le bonheur de... Quand on vit en France, de ce qu'on nous offre ou ce qu'on peut avoir, j'ai plus les mêmes sensations qu'avant.
Cet atelier, il va se composer en deux parties. Première partie, on va travailler un cri de ralliement. Souder le groupe autour de valeurs qui vous paraissent fondamentales. Des valeurs sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour la suite, pour l'après-crébat. Est-ce que vous avez des idées d'un cri de ralliement, des mots forts qui vous viennent tout de suite ?
Moi, j'aurais dit l'esprit d'équipe.
Équipe.
Pour moi, il n'y a rien de plus fort que la fraternité d'armes qu'il y a entre nous.
Équipe, ouais, fraternité.
Ça y est, c'est bon.
Zénitude.
Sympa, bon. Et puis quelque chose qui rappelle effectivement cette détente, ce bien-être ensemble.
Il n'y a pas un oiseau qui est toujours en groupe, à part le pingouin.
Tous unis comme le pingouin.
Les étourneaux.
En chevreuil, ça.
Les étourneaux, ça fait des belles choses. Vous savez, ces nuées d'étourneaux, ils font des figures incroyables dans le ciel. Ils font des choses très belles quand ils sont ensemble.
Et les inséparables, et ben c'est plus.
Ah, c'est pas mal ça.
C'est bien parce qu'on a la double image. de la fraternité, de l'unité.
Ouais,
ça va à tout le monde.
Ouais.
Inséparable.
Ça résume un peu tout, hein, fraternité.
Ouais, exactement. Ouais.
Ok. On a dit qu'on allait faire du bruit. D'accord. Crébat 7.
Inséparable.
C'était pas bon. C'était pas ça du tout. Crébat 7.
Inséparable.
Ouais, mieux. Crébat 7.
Inséparable.
Crébat 7.
Inséparable.
Moi, je m'appelle Jordan et j'ai 6 ans et demi de service. Il y a eu beaucoup d'événements traumatisants suite à mes fonctions que j'avais, d'où la plus importante photographe section, qui était de répertorier tout ce qu'on trouvait, les corps, tout ce qu'on trouvait. Quoi. Et aussi la blessure d'un camarade que j'ai secouru. Et forcément, le déclic vient après, quand vous dormez avec l'appel de ce camarade qui est toujours là. On l'entend. On l'entend et on le voit tout le temps. Il est en vie. Mais son image et ses cris restent là. Je l'ai revu une fois au régiment. Et la première chose qu'il a fait, c'est venir vers moi, me prendre dans ses bras et me dire merci. Nous, c'était d'autant plus tragique que c'était nos munitions qui ont causé la blessure. C'était des grenades qu'on avait qui étaient cabossées à force de passer de mission en mission. Donc forcément, au bout d'un moment, elles ne supportent plus le choc et du jour au lendemain, elles explosent. Et là, c'est ce qui est arrivé. Elles ont pété dans le gilet.
Et après ça, vous êtes dit, je peux plus continuer? Ou on vous a dit, là, il faut que tu prennes un temps d'arrêt? Comment ça s'est passé?
Non. Après la mission, on est passé par le sas de décompression. Quand je suis entré chez moi, je dormais plus, j'ai commencé à être agressif, etc. Ma mère ne m'a pas reconnu. Elle m'a dit c'est pas toi. Et forcément, ça fait mal, mais on continue. On continue jusqu'à ce que votre femme vous dise va voir le médecin, fais quelque chose, tu peux pas rester comme ça.
Je m'appelle Aurélie, je suis la compagne de Jordan. J'ai 2 enfants, Inès et Adèle.
De très mignonnes petites filles.
Merci. Et je suis infirmière depuis 10 ans.
Votre mari militaire, vous l'avez vu rentrer d'opération la dernière fois dans un état auquel vous n'étiez pas préparée?
Non, du tout. Il était vraiment dans un état physique très, très affaibli. Psychologiquement, il était affaibli aussi. Il était même en état de choc.
Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous avez pu échanger avec lui? C'est vous qui lui avez dit...
Au début, non. Au début, souffler un petit peu, puisque c'est pas le but non plus, quand il rentre, de lui sauter dessus et lui dire « Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? T'es pas pareil. » J'ai laissé quelques temps... Je l'ai laissé seul quelques temps, entre guillemets, et pour souffler. Et puis, si lui avait envie de me parler, il venait me parler. Et comme il était encore au régiment, quand il est rentré, il a eu 3 jours de permission. Il est reparti au régiment. Il est revenu après un mois en vacances. Et c'est vraiment au moment où il a été en vacances pendant un mois qu'on a pu mettre les choses à plat et s'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait vraiment pas.
À ce moment-là, comment est-ce que ça se passait à la maison?
Il était vraiment pas distant, mais dans ses pensées, et il dormait très mal. Un tantinet agressif par moment quand il avait pas envie de nous parler, ou si on avait quelque chose à lui demander, c'était une réponse agressive verbalement.
Et ça non plus, c'était pas Jordan?
Non, du tout. Du tout.
même avec les cachets que j'ai eu pour m'aider à dormir, mon esprit dormait, enfin du moins moi je dormais, mais mon corps dormait pas. Mon corps dormait pas et du coup ma femme ne dormait pas. Parce que elle se prenait des coups. Elle se prenait des coups, je faisais comme du somnambulisme dès qu'il y avait un bruit dans la maison, où je me planquais sous le lit, des trucs comme ça.
Ça fait combien de temps que ça s'est passé maintenant ?
C'était en 2014.
De profession, vous êtes infirmière, ça vous a alerté ? Vous êtes dit là, il faut faire quelque chose ?
Oui. Quand il a commencé à plus dormir la nuit, ou le peu qu'il dormait à être agité, être vraiment renfermé sur lui-même, c'est là que je me suis dit il va falloir réagir, il faut prendre le taureau par les cornes et puis voir avec lui et lui expliquer que oui, ben il y a peut-être quelque chose qui va pas psychologiquement, chose qui est pas facile à dire parce que les gens tout de suite, quand on leur dit oui psychologiquement il y a quelque chose qui va pas, c'est je veux pas aller voir un psy, je suis pas fou, etc. Et ça, c'est la démarche a été difficile, mais il l'a bien entendu.
Aujourd'hui, c'est la journée des familles. Votre famille a pu venir vous rejoindre ici à Beuil. C'était important de...
C'était important pour elle aussi, parce que elle comprend pas ce qui se passe. Je n'arrive pas beaucoup à lui parler de ce qui se passe dans ma tête. Donc, elle va aussi pouvoir parler avec les encadrants pour... avoir des explications.
Et puis ça va être une très belle journée à partager avec votre vraie famille et la famille élargie qui s'est faite ici.
Oui, c'est comme ça, elle va pouvoir s'oxygéner aussi un peu. Parce que l'atmosphère pesante de la maison, il faut sortir des moments et c'est pas avec moi qu'elle y arrive.
Aujourd'hui, il a avancé aussi dans ses projets d'avenir. Déjà, il en a, ce qui a à un moment pas été le cas.
Oui.
Il pense quitter la vie militaire et on sent que c'est quand même une sorte de deuil aussi.
Oui, bah oui. Mais je pense que c'est comme dans tout travail. Même toute chose de la vie, il faut faire son deuil. Là, il faut qu'il fasse son deuil de la vie militaire. Chose qui n'est pas facile parce qu'ils vivent tous ensemble, ils sont en caserne, ils sont vraiment ancrés dedans et c'est comme s'ils faisaient un deuil de famille en fait. Donc il est dans la bonne démarche.
Vous le sentez se projeter sur un autre projet, sur une vie très différente ?
Oui, oui. Ça, il acceptera. Il acceptera de tout quitter, enfin quitter l'armée et de repartir à zéro. Maintenant, c'est à lui de voir dans quoi, à lui de choisir ce qui sera le mieux pour lui.
Ce matin à Beuil, pas d'activité sportive. Les blessés vont passer toute la matinée à jouer au Lego. Et c'est un jeu très sérieux pour trouver des solutions par un moyen assez inattendu et qui a déjà fait ses preuves en entreprise.
Il y a un sachet où il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est Monico qui a la deuxième. Hop. Vous allez garder toutes les pièces vertes et les pièces beiges. Et vous gardez une plaque marron et un petit carré rouge transparent. Maintenant que tout le monde est là, que vous avez commencé un petit peu à travailler, on va quand même parler de ce qu'on va faire. Faites confiance à vos mains. Plongez les mains dans les Legos, commencez à assembler des pièces et laissez venir ce qui vient. Faites confiance à vos mains, c'est le principe du jeu. On va imaginer tous ensemble un crébat idéal sur un projet commun pour essayer de trouver des solutions et améliorer l'existant. D'accord ? Et il se passera ce qui se passera. Yes. Et je vais vous demander, parmi tout ce que vous avez dit, s'il y avait une chose à retenir et à conserver, ça serait laquelle, pour vous? Et vous le mettez sur la plaque grise. Est-ce que chacun peut prendre son l'essentiel qu'il a retenu et nous dire ce qu'il a choisi? Allez, en commençant par Monico. Tu peux le prendre dans la main simplement et puis nous dire pour que tout le monde le voit.
J'ai choisi ces deux personnages, ce qui représente pour moi, on va dire, l'esprit d'équipe, le courage, la cohésion, qui sont importants pour nous, pour pouvoir continuer par la suite et ce qui nous donne la force.
Mm-hmm. Stéphane.
Alors moi j'ai gardé le personnel encadrant avec la main tendue et la bienveillance.
Merci.
Moi j'ai gardé tous mes petits bonhommes qui symbolisent le groupe, le soutien et le partage.
Moi j'ai pris le symbole de la porte. D'accord. Pour que dès qu'on se sent en danger, on puisse repartir chez soi.
Merci. Moi j'ai choisi l'équitation, travailler avec les animaux. Et voilà.
Moi, en restant sur le sujet principal, c'est-à-dire le crébat idéal, ben, c'est l'évolution en milieu aquatique, ce qui se complète avec l'évolution au milieu des animaux.
Merci.
Moi, j'ai gardé les trois personnages qui étaient sur ma plaque pour symboliser la fraternité d'armes et l'échange qu'on peut avoir entre nous.
Il y a des idées qui commencent à se regrouper, à se recroiser. Ce que je vous propose, c'est essayer de se regrouper par idées ou... Sylvain, il ne se sentait pas bien, il est sorti, Marc l'a accompagné. Donc on va commencer comme ça, il va nous rejoindre après. Donc c'est important que vous vous situez dans l'évolution de ce stage. Ce que je vous propose, on va faire une petite pause, puisqu'il nous manque deux personnes et c'est important de les intégrer dans le groupe. Je vais juste voir ce qui se passe, et si je vois qu'il y a besoin du groupe, je viens vous chercher. Ça vous va ? Je suis Benoît Thierry, je travaille à la CABAT depuis 3 ans et depuis un an et demi, je suis adjoint au pôle réinsertion de la CABAT et j'accompagne les blessés, plus particulièrement psychiques, sur leur parcours de reconversion professionnelle.
Ce matin, on a passé avec vous 3 heures, plus de 3 heures dans cette salle à jouer à un jeu de Lego, un jeu de société bien connu mais qui est là très différent. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 heures?
Donc le début de l'atelier, c'est d'apprendre la méthode, parce que ce n'est pas un jeu, c'est une méthode. Et ensuite, ils ont raconté leur histoire, à travers différentes constructions et des questions que je leur ai posées.
Il y a quelque chose de très particulier dans le fait de construire physiquement de ses deux mains, c'était important?
Oui, c'est important, parce que construire de ses deux mains va vous permettre d'utiliser finalement les deux hémisphères de votre cerveau et d'avoir accès à des idées, des images, des solutions. C'est une particularité de la méthode ou toute activité avec laquelle vous avez interagir avec vos deux mains.
Il y a eu aussi des pauses un peu obligées, parce qu'il y a eu des moments d'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Effectivement, à travers différentes constructions, on parle de soi, on parle de ses valeurs, des moments de vie. Et forcément, émotionnellement, il y a des choses qui vont remonter. Et ce qui est normal, parce que parfois c'est oublié dans l'inconscient. Et le fait de construire, de le voir, et de l'exprimer, et de le partager, fait que... Il y a une charge émotionnelle qui est vraiment très forte. On laisse exprimer l'émotion qui a besoin de sortir pour pouvoir revenir dans l'activité et reparler tranquillement. Et c'est aussi un point de bascule dans le stage, puisqu'on est on est quasiment à la moitié. On est un peu fatigué avec le sport. Et en fait, c'est le bon moment. On ne pourrait pas faire cet atelier-là en début de stage. On aurait trop de réticences, on aurait trop de choses. Et on aurait peut-être même des explosions. Là, c'est une libération de dire « Ok, j'ai revu quelque chose ». Je l'ai posé, je l'ai exprimé, ça y est, c'est passé. Et on le laisse passer.
Et tout le monde est revenu.
Et tout le monde est revenu, exactement. Ensemble.
Et vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Un meneur.
J'ai relevé la selle vers lui.
Pas de soucis. Il n'y a pas de chronomètre.
L'objectif pour vous, c'est de le réaliser. L'envie aussi de faire pour un groupe. Vous le faites en fonction des ressources que vous avez. Prenez du plaisir. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui. Oui.
Allez, c'est parti.
Stéphane, on s'était vu au tout début du stage et vous m'aviez dit je suis venu un peu pas contraint et forcé, mais enfin pas plus que ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la situation a pas mal changé.
Oui, parce que en fait, le stage m'a beaucoup apporté entre l'environnement des gens qui nous accompagnent et les camarades blessés que j'ai pu côtoyer. Ça m'a renvoyé un peu vers moi-même. Quand pendant longtemps on s'enferme, qu'on n'a plus l'habitude de parler aux autres ou de s'ouvrir aux autres, c'est compliqué. Ouais.
Est-ce qu'on peut parler maintenant de votre histoire personnelle, de ce qui fait que vous avez eu cette blessure?
Alors moi j'ai vécu une mission un peu compliquée en Afghanistan, où c'était un petit détachement puisque en fait on travaillait au profit de l'armée afghane. Donc ce sont des petites unités. On était 32 Français insérés dans un Kandak, un régiment. Les deux premiers mois se sont relativement bien passés, hormis des petits contacts ou des accrochages à l'arme légère ou à l'arme lourde. Et puis après, on a été accroché un peu plus sérieusement et un camarade est mort. Et d'autres blessés. Et puis il faut continuer la mission. Et puis on nous détruit un autre véhicule et d'autres camarades sont blessés. Donc il faut continuer parce qu'il faut avancer, mais c'est compliqué. Parce que en fait, quand on est un peu gradé, c'est difficile d'avoir des hommes en face de soi, d'avouer ses faiblesses. Et puis il y a l'image que les gens ont de vous. Donc on ne veut pas paraître faible. Donc on trouve plein de tactiques pour se dissimuler.
Et vous avez une idée de ce que sera l'avenir que vous allez choisir, rester dans le corps, dans l'institution?
Je ne me vois pas revenir dans l'institution comme un invalide ou diminué. Donc si j'ai la certitude de ne pas pouvoir récupérer mes aptitudes, je pense que je ne reprendrai pas dans l'institution. Pour l'instant, je n'avais pas entamé mon parcours de soins, donc je vais véritablement entamer mon parcours de soins.
Et alors ça, c'est la plus grande décision de ce stage?
Je pense que c'est une des plus grandes décisions du stage, oui. C'est d'entamer un vrai parcours de soins. Même si je savais que mon comportement, il n'était pas toujours adéquat ou approprié. Plusieurs fois, on m'a proposé de me faire hospitaliser. J'ai toujours refusé parce que je ne me considérais pas comme quelqu'un de fou. Et c'est vraiment mes camarades qui m'ont décidé au cours des soirées qu'on a passées ensemble.
Mais vous êtes toujours pas fou. Vous êtes blessé. Ça, vous l'acceptez?
Alors, j'accepte que je suis pas fou. Je vous dis, j'ai encore du mal en termes de blessure. J'ai du mal. Mais j'ai retrouvé un peu le sourire quand même.
Oh oh oh. Attention aux genoux. Oh.
C'est la dernière grande activité de ce groupe qui s'appelle maintenant le Crébat 7. C'est une grande balade en montagne, dans le splendide massif du Mercantour. L'encadrement s'est isolé, ils font un cercle, les bras les uns sur les épaules des autres, et ils appellent un par un tous les stagiaires.
Pascal ! Pascal !
Nouvel cercle. Pascal, est-ce que tu es heureux, Pascal ?
Oui, Pierre.
Pascal, tu peux nous dire ce que Crébat t'a apporté?
La joie. La joie et retrouver des sensations qu'on connaît en régiment quand on commande. Et j'ai retrouvé la cohésion et l'esprit d'équipe avec mes frères d'armes et ça me va très bien.
Pascal, mets la main sur Belém. Sur votre totem, mets la paume vers le haut.
Pascal, de la part de tout le monde, bienvenue dans la famille Crébat.
Un bon lumière.
Sois un bon ambassadeur.
Bienvenue. Stéphane.
Pascal, on s'est déjà parlé.
Un petit peu, ouais.
Vous étiez posé la question d'arrêter, de quitter l'armée, de faire tout à fait autre chose.
Je me suis posé la question et ça faisait partie clairement des questions que je me posais en arrivant ici. Et j'ai ma réponse.
Alors qu'est-ce que c'est cette réponse?
Je vais encore servir un petit peu. Je vais essayer de reprendre le boulot. J'ai des restrictions médicales qui font que j'ai pas le droit au port d'armes. Ça me fait un peu suer de devoir reprendre le boulot avec des restrictions, mais si il faut en passer par là pour que ça soit impeccable, eh ben, on fera le boulot comme nécessaire.
Ça, c'est quelque chose qui reste douloureux, de se dire qu'on ne peut pas faire le métier de militaire qu'on a fait juste avant, qu'on ne peut pas reprendre au même niveau.
Ça fait partie de la blessure, ça. C'est un élément qui rajoute à la blessure et c'est compliqué de vivre cette blessure. Ça fait partie de la dévalorisation de soi et c'est terrible, c'est destructeur.
Est-ce que ça a été compliqué de comprendre et puis d'accepter peut-être qu'on est vraiment blessé, que la blessure psychique c'est une vraie blessure?
Il y a plusieurs choses qui aident à accepter, même si je n'ai pas encore fait le travail en entier. Il y a la remise symbolique de l'insigne des blessés. Ça déjà, ça a été très important pour moi parce que je me disais, l'institution reconnaît en moi pas un feignant, mais un blessé, et ça m'a fait beaucoup de bien. Le deuxième déclic, c'est en début de semaine quand le docteur nous a fait une présentation du cerveau avec les différentes sensibilités, le pourquoi du comment. On comprend un peu mieux pourquoi on a ces automatismes et pourquoi on est aussi mal. Et je me suis dit pour la première fois, je suis un blessé comme mes camarades. Sauf que ma blessure, elle est dans ma tête.
C'est une blessure invisible.
Complètement. Je pense que le retour à la maison va être dur. Le choc du retour va être compliqué. J'ai vraiment pas hâte.
Oui, je suis le colonel Thierry Malou, Yann pour les stagiaires du CREBAT.
Dans quel état ils vous arrivent, ces blessés psychologiques?
Ils ont tous exprimé le besoin de commencer à sortir du tunnel, d'avoir un objectif. Ils ne savent pas quel objectif encore. Quand ils arrivent au CREBAT, ils sont encore perdus. Ce qui me frappe toujours, c'est que à l'arrivée, ils ont parfois ces yeux vides. Parfois, c'est difficile de prendre le train pour venir jusqu'à Bonn.
L'un d'eux n'a pas réussi, d'ailleurs, dans ce stage précisément.
Et l'un d'eux n'a pas réussi. Vous voyez, sur l'ensemble de nos camarades, il y en a un qui est monté dans le train et il est ressorti. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est la première fois qu'il prenait le train depuis sa blessure, qu'il y avait du monde. Il est redescendu, il a posé son sac, il nous a appelé. Il était en pleurs au téléphone. Pour lui, la première épreuve, c'était de prendre ce train. Il n'y est pas arrivé, mais je peux vous dire par expérience, après 7e CREBAT, que certains de nos camarades ont été dans la même situation et ils sont revenus un ou deux CREBAT plus tard. Donc je connais très bien ce camarade et je sais que peut-être un ou deux CREBAT plus tard, il reviendra.
Ils se posent beaucoup de questions sur leur capacité. Ils disent on n'était pas si préparé que ça à faire la guerre. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? Est-ce qu'un militaire est vraiment prêt à assister à des scènes d'horreur, de violence extrême?
Ils sont préparés à la guerre par leurs compétences et par les techniques. Et vous avez dans ce CREBAT-ci, je le dis bien et je pèse le mot, de magnifiques soldats. Mais ils ne sont pas préparés à l'horreur de la mort. Peut-on préparer un homme à la mort? Peut-on préparer un homme à l'effraction de la mort subite, soudaine, dans votre vie? Franchement, je ne le crois pas. Nous avons travaillé sur une participation dans les SAMU, ou ainsi de suite, à des événements. Mais vous vous rendez compte que rien ne peut préparer à tout simplement ce choc subi, cette effraction, c'est une véritable effraction.
Parmi ceux dont il souffre, il y a eu aussi quelquefois un sentiment d'abandon de sa hiérarchie.
Il peut y avoir en effet une souffrance due à un décalage entre le moment où ils ont eu leur blessure et puis le reste, de leur section, de leur groupe, qui continuent, eux, sur un mode opérationnel. Et ce décalage est une souffrance. Il faut comprendre que l'ensemble de nos unités sont des unités opérationnelles 24 heures sur 24. Et que rapidement, quelqu'un qui va s'isoler avec tous les symptômes que vous connaissez, des garçons qui vont être irritables, avoir de nouveau un problème de relation aux autres, d'empathie, qui parfois vont aller vers l'alcool, ainsi de suite. Vous voyez très bien que cela ne peut plus fonctionner avec la vie d'une unité qui est prêt à partir sur un théâtre d'opération. Et donc, il va y avoir ce décalage. Et ils en souffrent. Et on essaye de leur expliquer ça. En effet, vous allez vous retrouver à côté. Et ça, c'est très dur. Petit à petit, nous sommes en train de mettre dans la notion de parrainage. C'est-à-dire que lorsque dans une unité, un camarade quitte l'unité et va se mettre à côté, il y a un parrain choisi par notre camarade, justement, pour garder le lien. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un petit mot sur Facebook, c'est l'écume des jours, je dirais, pour voir comment on règle ce fameux curseur de la distance entre l'empathie et puis la charge émotionnelle de suivre. Vous avez raison de le dire, il y a un décalage. Et donc parfois, il y a une perte de confiance dans l'institution, parfois il y a un sentiment d'injustice. Lorsqu'ils vont quitter le CREBAT, ils auront aussi cette image de militaires autour d'eux, de nouveaux compagnons autour d'eux qui les entourent. Et d'une certaine manière, ils vont raccrocher de « à côté » à « je suis dedans » pour peut-être partir sur une nouvelle voie qui va être l'entreprise privée, autant éventuellement que l'installation d'une unité militaire.
La blessure invisible, revivre après un syndrome post-traumatique, reportage Isabelle Souquet, prise de son Jean-Marie Porcher, mixage Manuel Couturier. Interception est réalisée cette semaine par Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe. Zora Bensmaili est en charge de la page internet de l'émission et Romain Couturier, lui, des recherches musicales. Dans un instant, c'est le journal de 10h sur France Inter. Bon dimanche.
Merci Vanessa Descoureaux, c'était donc Interception, le magazine de la rédaction de France Inter. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet du jour et compléter votre information, rendez-vous sur le site internet de France Inter. Vous y trouverez différents liens, vous renvoyant par exemple sur le site du ministère de la Défense avec le témoignage d'un militaire après son retour de mission en Afghanistan ou encore celui de Sociopogo avec un article d'Axel Auge, rejoindre les rangs après la blessure, la réinsertion au milieu militaire du soldat blessé, une expérience sociale singulière, ça date de 2014.